École normale supérieure, savoir en multimédia.
Bonjour à tous. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jacqueline Bloch, qui est une chercheuse du CNRS qui travaille au laboratoire de photonique et de nanostructures dans un laboratoire CNRS qui se trouve à Marcoussis, dans le sud de la région parisienne. Jacqueline a effectué ses recherches d'abord au L2M, qui était un laboratoire CNRS voisin du laboratoire du CNED qui se trouvait à Bagneux. Et puis, il y a quelques années, ce laboratoire a déménagé, le L2M a déménagé pour s'installer à Marcoussis, où il est devenu donc le LPN. Jacqueline Bloch est une spécialiste de l'étude des excitations électroniques dans les nanostructures de semi-conducteurs de différentes dimensions. Donc, elle a étudié des boîtes quantiques, des fils quantiques, et beaucoup des microcavités. C'est une spécialiste des microcavités. Elle va nous parler aujourd'hui des condensats de polaritons dans les microcavités de semi-conducteurs. Et voilà, je lui laisse la parole.
Merci beaucoup. Donc, Bonjour. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Robson et Jérôme pour me donner la possibilité de venir vous parler de condensats de polaritons et vous présenter nos derniers résultats que nous avons obtenus tout récemment. Alors, les résultats que je vais vous présenter sont essentiellement des résultats expérimentaux qui ont été entièrement réalisés au laboratoire de photonique et nanostructures à Marcoussis et qui sont vraiment le cœur du travail de thèse d'Esther Wertz, qui est ici présente, et également le travail de Lydie Ferrier, qui est actuellement en postdoc avec moi. Alors, tous les échantillons qui sont étudiés sont réalisés au LPN par Aristide Lemaître. Et puis, donc, comme vous le verrez, on étudie des échantillons qui sont microstructurés. Et donc, ils sont réalisés par lithographie électronique, par Pascal Senelard, et ensuite gravés par Isabelle Sagne. Alors, on a bénéficié de discussions très intéressantes pour les expériences avec Daniele Sanvito de l'Université Autonome de Madrid et aussi avec Roger Grousson de l'INSP. Et puis, pour nous aider à interpréter tous ces résultats, on a une collaboration très fructueuse avec deux groupes de théoriciens, le groupe d'Alexei Kavokin à l'Université de Southampton et le groupe de Guillaume Malpuech au LASMEA à Clermont-Ferrand. Alors l'exposé, le plan de mon exposé va être le suivant. Comme je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ces bestioles qui sont les polaritons de cavité, je vais prendre un peu de temps pour vous les introduire, donc vous expliquer vraiment ce que sont ces polaritons de cavité et pourquoi on peut espérer les faire condenser, et donc vous faire un petit peu un tableau de l'état de l'art aujourd'hui des études sur la condensation des polaritons. Et puis ensuite, donc, je vous montrerai comment on a pu développer des échantillons de très très grande qualité qui permettent maintenant d'observer une expansion spatiale de ces condensats qui présentent avec une cohérence spatiale très très étendue et comment également maintenant on peut commencer à manipuler optiquement ces condensats, en particulier dans des microfils. Ensuite, je vous montrerai également que donc comme les polaritons donc sont une particule de lumière-matière, ils sont sensibles aux interactions et on voit vraiment des signatures très fortes de l'interaction coulombienne de ces condensats avec les excitons qui les environnent. Et puis je terminerai donc par les nombreuses perspectives qui s'ouvrent actuellement dans ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est les polaritons de cavité? Donc, ce sont des états mixtes excitons-photons, donc qui sont issus du couplage fort entre des excitons et les modes optiques d'une microcavité. Donc, typiquement, les échantillons qu'on étudie sont donc réalisés en épitaxie par jet moléculaire et sont donc constitués par une cavité optique séparée par deux miroirs. Alors, pour obtenir des très fortes réflectivités, on n'utilise pas des miroirs métalliques, on utilise des miroirs interférentiels. Donc, c'est un empilement périodique de couches de semi-conducteurs qui présentent un indice optique différent. Donc, ici, par exemple, vous avez une partie d'un miroir GAS à LAS. Donc, ici, c'est une image en microscopie électronique en transmission qui vous montre la qualité cristalline des empilements de couches qu'on est capable de réaliser par épitaxie et par jet moléculaire. Alors, si on regarde la réflectivité d'un empilement de couches, comme ça, un miroir de Bragg, ce qu'on voit, c'est que dans une plage limitée d'énergie, cet empilement de couches présente une réflectivité très élevée et qui devient de plus en plus élevée quand le nombre de paires augmente. Donc, on est vraiment capable d'avoir des miroirs qui ont une réflectivité très, très, très proche de 1, 99,999. Et donc si ensuite on met deux de ces miroirs, comme dans la structure ici, qui donc définissent une cavité optique, au milieu de cette plage de haute réflectivité, on va avoir donc la formation d'un mode de Fabry-Perot, un mode optique confiné dans la structure, donc qui définit donc une onde stationnaire avec des ventres et des nœuds du champ électromagnétique. Alors dans les cavités qu'on étudie, on va placer au ventre du champ électromagnétique une couche active qui est donc un puits quantique qui va émettre de la lumière. Et alors nous, on travaille dans un régime de densité et à une température suffisamment faible pour que lorsqu'on excite donc soit optiquement, soit électriquement les puits quantiques, donc on va créer des, on va faire passer des électrons de la bande de valence à la bande de conduction. Ces électrons vont donc, on va donc créer des trous dans la bande de valence. Ces électrons et ces trous vont pouvoir se lier par interaction coulombienne pour former des excitons. Donc c'est une paire électron-trou en interaction coulombienne. Et c'est ces excitons donc qui sont libres de se propager dans le plan du puits quantique qui vont émettre de la lumière. Et donc les échantillons qu'on réalise sont réalisés de telle façon que l'émission des excitons est résonante avec le mode optique de la cavité. Alors, si la finesse de nos cavités est suffisamment bonne, les photons émis par le puits quantique, par les excitons, vont pouvoir osciller suffisamment longtemps dans la cavité pour être réabsorbés, réémis et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça qu'on rentre dans un régime qu'on appelle le régime de couplage fort, où on n'a pas d'un côté les excitons et les photons, mais on a la formation d'état mixte excitons-photons. Et donc, et à la résonance, donc on a une levée de dégénérescence qui est le dédoublement de Rabi. Donc, ce sont ces états mixtes excitons-photons qu'on appelle des polaritons de cavité. Et donc, ce dédoublement de Rabi est d'autant plus grand que la force d'oscillateur des puits quantiques, c'est-à-dire l'interaction lumière des excitons, enfin, du puits quantique avec la lumière est forte et grande, que le nombre de puits quantiques est grand, et puis également que le volume de la cavité est petit, donc que l'épaisseur de la cavité est petite, puisque plus on confine le champ, plus l'intensité du champ électromagnétique au ventre va être forte. Donc on renforce l'interaction lumière-matière. Alors ce régime de couplage fort, il a été démontré expérimentalement pour la première fois en 92, donc dans un papier de Claude Weisbuch qui vraiment correspond au début donc de l'histoire des polaritons de cavité. Donc qu'est-ce qui est fait dans cette expérience? En fait, c'est une expérience très très simple. On prend donc un échantillon réalisé par épitaxie, par jet moléculaire. On le regarde à basse température. Et donc c'est simplement une expérience de réflectivité qui est faite. Et donc l'échantillon qui est utilisé présente un léger gradient d'épaisseur qui fait que si on sonde différents points de l'échantillon, le mode de cavité va présenter un fort changement d'énergie. Donc en sondant la réflectivité à différents endroits de l'échantillon, on sonde différents désaccords spectraux entre l'arrêt excitonique et le mode de cavité. Et donc ce qu'ils ont vu dans ce papier, c'est qu'à la résonance, au lieu d'observer un croisement entre le mode de cavité et l'arrêt du puits quantique, ils observent un anticroisement avec ce fameux dédoublement de Rabi. Donc c'est la première démonstration du régime de couplage fort. Donc ces polaritons de cavité sont donc des états mixtes excitons-photons et donc ils vont présenter des propriétés caractéristiques qui sont liées à leur nature mixte. Donc en particulier, grâce à leur partie excitonique, ils vont interagir beaucoup avec l'environnement. Donc ils peuvent interagir avec les phonons, avec les vibrations du cristal et ils peuvent interagir entre eux via les interactions excitons-excitons. Et puis, nous verrons donc à cause de la partie photonique, les polaritons de cavité présentent une masse effective très très faible, qui va être très utile pour la condensation. Et puis également, c'est grâce à cette partie photonique qu'on détecte de la lumière de l'extérieur. Le photon a un temps de vie limité, il a une probabilité non nulle de s'échapper à travers le miroir. Et c'est ça la lumière qu'on va détecter à l'extérieur, nous les expérimentateurs. Alors en fait, le système est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas un état d'exciton et un état de photon. On est dans un système bidimensionnel et en fait, on a un continuum de modes de photons. Donc chaque mode de photon étant défini par son vecteur d'onde dans le plan. Et de la même façon, on a un continuum de modes excitoniques. Et donc cette l'invariance par translation, en fait, va nous dire que chaque exciton de vecteur d'onde donné est couplé au mode de photon qui a le même vecteur d'onde. Donc pour chaque valeur du cas parallèle, on peut écrire cette matrice de couplage, cet hamiltonien de couplage. Et du coup, en fait, on n'a pas juste deux états de polaritons, on a deux branches de polaritons, la branche basse et la branche haute. Et donc nous, dans la suite de l'exposé, on va s'intéresser donc à cette branche basse qui présente ici un très fort caractère mixte excitons-photons Et puis, on voit que la branche basse évolue vers des états qui sont très, très excitoniques et puis qui ont une très grande densité d'états. Donc, ces états, on verra, vont jouer un rôle très important. Et c'est ce que je vais appeler le réservoir excitonique. Alors, comme donc je vous l'ai dit, ces polaritons présentent cette dispersion caractéristique. D'autre part, les excitons, donc qui sont une paire électron-trou liée par interaction coulombienne, sont en fait des quasi-bosons. Ils ont un spin entier. Les photons aussi, bien sûr, sont des bosons. Et du coup, les polaritons obéissent à la statistique bosonique, donc se comportent comme des bosons. Et d'autre part, ils ont une masse effective extrêmement faible. À cause de cette très forte dispersion du mode photonique, eh ben, ils ont également une dispersion très faible. Donc on peut, en bas de bande, se mettre dans une approximation parabolique et définir une masse effective du polariton. Et cette masse effective est très très faible, typiquement 10⁵ fois la masse des électrons ou 10⁰ fois la masse des excitons. Donc on arrive vraiment avec une particule qui a une masse très légère. Alors si on regarde un petit peu à quelle température on s'attend à avoir des effets de type condensation de Bose, on voit que ce qui compte c'est le rapport entre la masse et la température. Et donc parce qu'on travaille avec une particule qui a une masse extrêmement légère, on s'attend à observer des effets de type condensation à des températures très élevées. Et donc au lieu de travailler comme avec les atomes froids à des températures inférieures au microkelvin, on espère travailler à des températures de l'ordre de 20 Kelvin, 50 Kelvin et même dans certains semi-conducteurs à température ambiante. Alors l'intérêt de ça, évidemment, c'est d'avoir un système, donc des condensats dans un système solide à température très élevée, voire à température ambiante, d'essayer d'avoir accès à cette physique des condensats, donc la superfluidité, l'existence de vortex dans un système à l'état solide. Et puis, on peut également espérer démontrer des nouvelles fonctionnalités optiques, faire des circuits qui sont basés sur la manipulation optique de ces condensats, réaliser des interféromètres, avoir l'analogue des oscillations Josephson. Donc, il y a pléthore actuellement de papiers, de propositions théoriques et d'expériences qui commencent à montrer qu'on arrive à commencer à explorer la physique des condensats dans le semi-conducteur. Alors comment on fait pour voir si on arrive à faire de la condensation? En fait, on utilise une propriété très intéressante des polaritons. C'est que lorsqu'un polariton disparaît parce que le photon s'échappe de la cavité, en fait, le photon qui s'échappe de la cavité, il emporte avec lui l'énergie du polariton dont il est issu, mais également le vecteur d'onde du polariton dont il est issu. Et du coup, il existe une relation directe entre l'angle d'émission avec lequel le photon sort et le vecteur d'onde du polariton dont il est issu. Du coup, si on réalise des expériences résolues en angle, on a directement accès aux relations de dispersion des polaritons. Donc ici, je vous montre une expérience où on projette simplement le plan de Fourier de la lentille de collection de l'émission sur la fente d'entrée d'une CCD. Et en un clic de CCD, en une seconde, on acquiert une image comme ça, où en vertical, on a l'énergie d'émission, en horizontal, l'angle d'émission, et on voit directement les bandes de polaritons. Et puis en code de fausse couleur, c'est l'intensité du signal, et donc c'est directement la population des états de polaritons qu'on est en train de regarder. Puis si on change de point sur l'échantillon, comme je vous l'ai dit, on peut faire changer le désaccord entre la cavité et l'exciton, et on peut sonder un désaccord différent. On voit qu'en changeant le désaccord, on change en fait la masse effective du polariton et la forme des dispersions. Alors comment on fait pour essayer d'avoir la condensation? Ce qu'on veut faire, c'est pomper de façon complètement non résonante, qu'il n'y ait aucun lien entre la cohérence de la pompe et la cohérence éventuelle de l'émission. Donc on prend un laser de très haute énergie, on crée des paires électrons-trous qui vont former des excitons, qui vont relaxer, qui vont venir beaucoup peupler ce réservoir excitonique dont je vous ai parlé, et puis éventuellement peupler le bas de la branche de polariton. Alors là, un des problèmes qui se pose contre la condensation, c'est que les polaritons ont un temps de vie très très court. À cause de l'échappement du photon par le miroir, le temps de vie du polariton est de l'ordre de 1 à 10 picosecondes. Donc en fait, ce qu'on veut pour avoir la condensation, c'est que la relaxation soit suffisamment rapide devant cet échappement pour qu'on ait le temps à l'intérieur du temps de vie de construire une population très grande de polaritons. Alors si on arrive à faire ça, on peut espérer commencer à avoir une occupation qui devient plus grande que 1 dans les états de bas de bande. Donc à ce moment-là, ça va entraîner une stimulation bosonique de la relaxation vers cet état et on peut commencer à construire une population très très élevée de cet état de polariton. Et ça, ça va une des signatures, ça va être l'apparition d'une cohérence dans l'émission, une cohérence temporelle et une cohérence spatiale. Alors, on a longtemps, donc dans ces dernières années, débattu de savoir est-ce que c'est vraiment de la condensation de Bose-Einstein, ce qu'on voit dans les cavités. Ce qu'on voit très bien, c'est que c'est un système qui est hors équilibre. À cause de ce temps de vie, c'est vraiment une condensation qui est gouvernée par la cinétique. Et donc, je crois qu'il y a maintenant un consensus pour dire que c'est pas un système à l'équilibre thermodynamique et que c'est pas vraiment une condensation de Bose-Einstein. Donc, il faudrait peut-être plutôt l'appeler une condensation dynamique ou un laser à polariton. Bon, il y a encore du débat, on sait toujours pas très bien comment appeler ça. Donc, ce que je vous propose dans la suite, c'est d'appeler un condensat de polariton un état de polariton qui est très très peuplé, qui a une population supérieure à 1, qui est dans qui a une dégénérescence quantique. Alors, on peut calculer le diagramme de phase de ces condensats et voir un petit peu dans quelles conditions peut exister cette condensation. Et là, il faut juste faire une petite parenthèse, c'est que les échantillons qu'on étudie sont exactement les mêmes qu'un laser à cavité verticale, donc les structures qu'on appelle des vixels. Simplement, un vixel travaille dans un régime où il n'y a plus d'excitons, on a des paires électrons-trous qui ne sont pas du tout corrélées. À ce moment-là, on va inverser la population entre la bande de conduction et la bande de valence et obtenir une émission laser à photons normale. C'est pas du tout le même régime. Et alors, en fait, dans nos cavités, pour être en régime de couplage fort et avoir la condensation ou le laser à polariton, il faut être en régime excitonique. Donc, en fait, il faut être à suffisamment basse densité et à suffisamment basse température. Si on augmente trop la densité, on va se retrouver avec un laser à photons, un vixel standard. Si on travaille à trop de température, la même chose. Ici, c'est le diagramme de phase pour GAS. Et donc, en fait, vous verrez dans la suite de l'exposé que pour essayer de comparer, de prouver que ce qu'on voit, c'est vraiment des condensats et pas juste un laser normal, en fait, je vais utiliser le fait qu'on peut augmenter la densité et donc passer dans le régime du régime laser à polariton au régime laser à photon et puis comparer les deux. Ou bien, une autre façon, c'est de se placer vraiment à haute température. Et par exemple, dans la suite, je me placerai à 100K. Et à ce moment-là, on est vraiment dans un régime laser à photons. Donc ça va être une façon pour nous de comparer puis de voir si les effets qu'on voit sont simplement des effets standards dans un vixel ou s'il y a quelque chose de nouveau. Alors, la condensation a été observé expérimentalement. Donc, le papier qui a vraiment convaincu qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, c'est le papier donc dans Nature qui est sorti en 2006 du groupe de Benoît Devaux et aussi de Leslie Dang à Grenoble, donc Benoît Devaux à l'EPFL. Et donc, dans ce travail expérimental, donc c'est une cavité de 6 à base de CDTE. Et donc, ce qu'ils ont regardé, c'est ce que je vous ai dit, la luminescence résolue en angle. Et ce qu'ils voient, donc, c'est que au-delà d'un certain seuil, on voit une augmentation très, très forte de la population de polariton dans l'état de plus basse énergie à K égale 0. On voit vraiment un rétrécissement de la distribution des vitesses. Et ça, c'est une image qui ressemble exactement à ce qui est vu avec les atomes froids. Donc quand on fait de la condensation de Bose. En densité, on reste à température constante. Et puis s'ils augmentent la température, c'est l'intensité du laser. On augmente la puissance optique qu'on envoie sur l'échantillon. On tourne une densité. C'est très facile ces expériences. Voilà. Alors donc, ce qui est apparu assez rapidement, c'est que ces échantillons de 6 sont très très désordonnés. Et si... Allez-y.
J'aime bien poser des questions. C'est pas... Mais malgré tout, pour que ce soit un condensat, il faut qu'il y ait une cohérence. Donc ça ne montre pas vraiment la cohérence. Ça pourrait être un effet non linéaire.
Alors, tout à fait, je ne vais pas en parler, mais ils ont montré la cohérence spatiale. C'est-à-dire que dans ce papier-là, ils ont mesuré la cohérence et ils voient qu'au début, la cohérence spatiale est toute petite et au-dessus du seuil, elle s'étend à tout le spot. Et tout mon exposé, ça va être sur la cohérence, justement. Donc, il est apparu très rapidement que ces échantillons sont très désordonnés. Et donc, si on regarde là, spatialement la forme du spot d'émission, on voit qu'au-dessus du seuil, le condensat, en fait, est fragmenté. Et donc, en fait, il y a une localisation par le désordre. Et donc, ça va être utilisé, par exemple, pour piéger des vortex. Et donc, récemment, ont été démontrés l'existence de vortex entiers et demi-entiers dans ces échantillons. Mais si on veut propager, faire bouger ces condensats, ce type d'échantillon ne va pas marcher parce qu'en fait, les condensats sont piégés par le désordre. Alors, d'autres travaux très intéressants qui ont été publiés récemment concernent d'autres types de cavités, donc dans GAN, où les excitons sont beaucoup plus robustes et tiennent beaucoup mieux en température. Et du coup, a pu être démontrée la condensation ici à température ambiante. Donc ça, c'est des échantillons qui sont également très désordonnés, mais qui sont intéressants puisqu'ils fonctionnent à température ambiante. Et dans ce type d'échantillon, a été démontré le fait que le paramètre d'ordre de cette transition, c'est la polarisation de la lumière. On a vraiment l'impression que c'est de la condensation de polaritons qui apparaît dans ces échantillons à température ambiante. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que dans ces deux systèmes, on a vraiment un gros problème de désordre. D'autre part, ce sont des cavités qui sont très difficiles à fabriquer, qui sont très difficiles à nanostructurer, qui sont difficiles à doper, donc qui présentent vraiment de gros problèmes pour aller plus loin. Donc là, ce qui va m'intéresser dans la suite de cet exposé, c'est des cavités à base de GAS, donc qui sont un système dont la technologie de croissance, de gravure, de dopage est extrêmement bien maîtrisée. Alors, le problème de GAS, c'est que les excitons sont beaucoup plus fragiles. Donc, la densité maximum d'excitons qu'on peut mettre dans le système avant qu'ils s'écrantent est beaucoup plus faible. Et puis, ils ne supportent pas non plus qu'on les chauffe. Donc, on va être obligé de travailler à basse température. Mais basse température, pour nous, c'est 10 Kelvin, 20 Kelvin. C'est pas les micro-Kelvin. Alors, d'autre part, les polaritons dans GAS relaxent mal. Donc, en fait, pendant des années, on n'arrivait pas à les faire descendre en bas. Ils restaient sur les côtés, puis on écrantait le couplage fort. Donc, ça nous a pris un certain temps de développer les bons échantillons pour observer la condensation. Mais on y est arrivé. Et donc, voilà l'échantillon que je vais utiliser ensuite dans la suite de l'exposé. Donc, c'est un échantillon où, pour améliorer la relaxation, on a mis beaucoup de puits quantiques. On en a mis 12. C'est un échantillon dans lequel le facteur de qualité est très grand. Il est supérieur à 17 000, ce qui fait que le temps de vie du photon est de l'ordre de 15 picosecondes, ce qui veut dire qu'à la résonance, le temps de vie du polariton est de l'ordre de 30 picosecondes. Alors, pour nous, 30 picosecondes, c'est très long, et ça laisse le temps à la condensation de se produire. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est que dans ces échantillons-là, on est capable de générer des condensats, et de façon sous excitation non résonante, je vais vous montrer des expériences tout d'abord dans des cavités 2D, puis après je vous montrerai comment on peut observer une expansion macroscopique et une cohérence spatiale macroscopique dans des cavités unidimensionnelles, donc dans des fils, et puis également comment on peut les manipuler optiquement et comment on peut également montrer donc les effets des interactions. Alors, tout d'abord, pour démontrer la condensation, on a fait la même expérience que ce que font tous les autres groupes, c'est-à-dire on a pris un grand spot d'excitation, donc grand pour nous c'est 20 microns, on excite une grande surface, et puis on regarde à l'intérieur du spot d'excitation la luminescence. Et donc, ce qu'on a vu dans ce premier papier, c'est qu'effectivement, on a une très très forte non-linéarité de l'émission dans les états de plus basse énergie. Et puis, si on regarde dans la distribution des vitesses, on voit qu'elle devient de plus en plus piquée au-dessus du seuil. Et si on regarde, donc on a effectivement, quand on est loin du seuil, on a vraiment une population très très grande dans les états de plus basse énergie, un affinement spectral qui est une première signature de la cohérence. Et puis, la cohérence, je la mesurerai mieux après. Donc ça, c'est la première expérience où on démontre la condensation. Et ce qui a l'air d'être très prometteur, c'est que on ne voit pas de fragmentation du tout liée au désordre. Le spot reste très très homogène au-dessus du seuil. Alors après, dans la suite de l'exposé, ce que je vais vous montrer, c'est des expériences où on prend un tout petit spot d'excitation. Donc là, on prend un objectif de microscope, on excite l'échantillon avec un spot de 2 microns, et puis on va regarder en fait l'émission sur une surface beaucoup plus grande, bien au-delà de la zone d'excitation. Et pour faire ça, là, on a étudié donc deux types d'échantillons, des fils et des piliers. Donc on les réalise en déposant par lithographie électronique, en insolant une résine par lithographie électronique. Donc en fait on définit un masque, puis ensuite on va graver tout ce qui n'est pas sous le masque. Et donc ça nous permet de définir comme ça une aire de jeu pour nous, où il y a des fils de toutes les tailles, des piliers de toutes les tailles, puis quand on bouge on peut changer le désaccord, et avec ça on peut jouer pendant quelques années. Alors, qu'est-ce qui se passe d'abord dans les fils ? Donc, en fait, dans les fils, la section, typiquement, c'est de l'ordre de 2 à 4 microns. Donc, en fait, on confine latéralement les polaritons. Donc, dans la direction transverse, dans la direction X, on définit une onde stationnaire pour les polaritons. Et donc, on a des sous-bandes. Par contre, le mouvement dans la direction Y reste libre. Donc, en fait, on a des sous-bandes 1D. Qu'on observe donc ici en luminescence résolue en angle. Donc chaque sous-bande correspond à un indice n différent. Et puis dans cette direction-là, c'est le vecteur d'onde, c'est la direction de libre propagation le long du fil. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend notre petit spot de 2 microns, puis on excite une toute petite zone. Et puis si on regarde la luminescence de cette petite zone, on voit la condensation en K égale 0, et puis une très belle non-linéarité. Maintenant, si je regarde spatialement ce qui se passe avec la luminescence, donc là, j'image spatialement l'émission. Qu'est-ce qu'on voit ? Ça, c'est l'émission du condensat. On voit qu'il s'étend, en fait, sur toute la longueur du fil. Donc, la zone d'excitation est ici. Et puis, sur les 200 microns du fil, il y a du signal. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait cette expérience ? Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, on excite de façon non résonante, on crée plein d'excitons dans le réservoir, et puis on a notre condensat qui se forme ici en K égale 0. Alors en fait, si je regarde les interactions auxquelles vont être confrontés ce condensat, en fait il y a plusieurs termes. Donc ici j'ai l'énergie cinétique de mon condensat, le potentiel de confinement, là j'ai un terme de peuplement, j'ai son déclin radiatif. Ici, je vais avoir des interactions linéaires, dont on verra l'importance un petit peu plus tard. Et là, j'ai un terme d'interaction avec les excitons du réservoir. Et donc, en fait, c'est des interactions coulombiennes entre le condensat et les excitons qui sont présents donc dans le réservoir. C'est des interactions répulsives. Donc, en fait, à cause de ce terme-là, j'ai en fait une renormalisation de l'énergie de mon condensat et j'ai un décalage vers le bleu de l'émission. Donc en fait, mon condensat, il est décalé vers les hautes énergies dans la région où il y a mon réservoir, où la région de pompe où j'ai mis tous mes excitons. Donc en fait, si je regarde vraiment bien, dans la zone d'excitation, en fait, mon condensat et ma bande de polariton, elle est décalée vers le bleu par rapport au régime à basse intensité. Du coup, si je regarde à côté du spot, là où j'ai pas où mon réservoir excitonique est vide, eh ben en fait ma dispersion elle est décalée vers le rouge. En fait, j'ai vraiment une petite zone, une petite montagne de potentiel sous le spot, et du coup ça va faire une force accélératrice qui va tendre à faire partir mes polaritons à l'extérieur du spot. Et ce que je vois quand je regarde dans cette région-là, c'est que j'ai la formation d'un condensat avec un vecteur d'onde fini, donc une vitesse dans le plan, et qui est exactement à l'énergie du condensat que j'ai créé sous mon spot. Puis j'ai la même chose symétrique de l'autre côté. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et alors si j'augmente la puissance, j'augmente la population de mon réservoir, donc j'ai mon blue shift, mon décalage vers le bleu qui augmente, et donc j'ai le quart qui augmente aussi à droite et à gauche, et qui suit parfaitement la relation de dispersion de polaritons. Donc ça, c'est une preuve que c'est vraiment des polaritons. Ça ne suit pas la dispersion du photon, ça suit la dispersion du polariton, puis ça change avec le désaccord. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet échantillon ? J'ai donc mon spot d'excitation qui crée des excitons dans mon réservoir, que d'ailleurs je vois ici. J'ai la luminescence à haute énergie, alors elle est amplifiée parce qu'elle est beaucoup plus faible, et on voit qu'elle est localisée sous le spot. Et puis, j'ai mon condensat qui se forme sous le spot et qui, à cause du décalage vers le bleu, acquiert une vitesse et s'étend spatialement. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ça, c'est un même état quantique, et est-ce que j'ai une cohérence spatiale le long de mon fil. Donc pour faire ça, on a effectué une expérience de trou de Young. Donc on a fait l'imagerie, une image intermédiaire de la luminescence du fil, et puis on a placé un écran percé de deux fentes qui nous permet de sélectionner deux petites régions sur l'échantillon, de sonder en fait la cohérence spatiale entre deux régions séparées de A sur le long du fil. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on se met sous le seuil? Ben, on voit qu'il y a presque il y a une très faible cohérence. Là, par exemple, ici, avec si je sonde la cohérence spatiale entre deux régions qui sont séparées de 100 microns, on voit une émission assez large et pratiquement pas de contraste, pas de frange. Au contraire, si j'augmente la puissance et que je dépasse le seuil, je vois que j'ai vraiment très clairement des interférences qui apparaissent. Et donc ici, j'ai deux régions séparées de 100 microns qui sont cohérentes entre elles. Alors à partir du contraste des franges, on peut remonter à la cohérence spatiale du premier ordre. Et donc ce qu'on voit, c'est que sous le seuil, on a une cohérence spatiale qui est très très faible. Et puis quand on augmente la puissance et qu'on dépasse le seuil, on a finalement une cohérence le long de tout le fil, ici même à 200 microns. Donc on sonde la cohérence entre les deux extrémités du fil, on a encore plus de 60% de cohérence spatiale. Donc on a vraiment généré un état quantique qui est cohérent et qui occupe toute la longueur du fil. Alors juste pour comparer avec ce qui avait été fait précédemment, donc ici je vous montre une référence qui vient du groupe de Yamamoto qui a été publiée en 2007 où donc la cohérence spatiale a été mesurée par le même type d'expérience de Trou d'Young et vous voyez qu'à une distance de 8 microns quand on sonde la cohérence spatiale à une distance de 8 microns, entre deux zones séparées de 8 microns, on a déjà presque une diminution d'un facteur 10 de la cohérence spatiale. Donc, qu'est-ce qu'on a amélioré là? C'est le temps de vie des polaritons qui permet donc au condensat de se former et de s'étaler comme ça spatialement. Alors, la propagation, on peut aussi la regarder résolue en temps. Donc ici, c'est des expériences sous excitation impulsionnelle et on regarde donc en fonction du temps qui est sur l'échelle verticale la distribution spatiale de l'émission. Donc ici, sous le seuil, on voit le spot d'excitation et puis la luminescence qui prend assez longtemps donc on a un temps de montée qui est très long et qui reste localisé dans la zone du spot d'excitation. Si on augmente la puissance, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette propagation directement résolue en temps. On voit que le spot s'étend, que le temps de montée devient beaucoup plus rapide et donc que l'émission s'étend sur tout le fil. Alors, si on regarde plus en détail, en fait, ce qu'on voit là, ici, on a excité le bout du fil. En fait, on voit des condensats qui se réfléchissent sur le bord du fil et qui viennent restimuler la relaxation puisqu'on a notre réservoir qui, lui, est localisé dans le spot. Et donc, quand ce paquet d'ondes cohérentes passe dans la région du réservoir, elle est réalimentée et puis elle repart ou bien elle est réfléchie à nouveau et à nouveau, elle restimule. Et donc, on voit vraiment la propagation cohérente résolue en temps donc de ces condensats. Alors, est-ce que c'est vraiment cette propagation une caractéristique des polaritons ou est-ce qu'en dans un régime laser en couplage faible, laser à cavité verticale, on verrait la même chose? Donc, pour répondre à cette question, on s'est placé à haute température. Comme je vous ai dit, dans GAS, à 100 Kelvin, les excitons sont beaucoup plus fragiles. Dès qu'on en met un petit peu trop dans le système, on écrante les excitons. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'au-dessus du seuil, on a une dispersion qui n'est plus celle des polaritons, qui est celle du mode de cavité. Et donc, on est vraiment en couplage faible. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là spatialement? Ben, on voit qu'on n'a pas de propagation. En fait, on a même l'effet inverse. À cause du changement d'indice lié à l'inversion de population dans la zone où il y a du gain, eh ben, en fait, on a un confinement par le gain. Et donc, l'émission, elle reste localisée sous le spot. Donc, en fait, on a un comportement opposé entre le régime laser à polariton ou condensation de polariton, où à cause des interactions répulsives, on a vu qu'on tend à étaler complètement nos condensats, et puis le régime laser à photon, où à cause du confinement par le gain, l'émission reste localisée dans le spot d'excitation. Voilà. Alors maintenant, on peut s'amuser à augmenter encore plus la puissance et regarder ce qui se passe. Alors là, on obtient des images absolument incroyables. Donc en fait, ce qu'on voit sur ces images, c'est d'abord que quand on augmente la puissance, on augmente la densité dans le réservoir, donc on augmente ce blue shift. Et ce qu'on voit, c'est que la barrière de potentiel sous le spot, on la voit carrément apparaître directement dans l'émission. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'à cause des interactions, en fait, on a une relaxation des polaritons par des interactions excitons-polaritons. Et en fait, au lieu de créer un condensat au sommet de la montagne, on crée des condensats à plus basse énergie, donc qui correspondent à un K plus petit, de chaque côté de la barrière. Donc si on regarde un petit peu plus en détail, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc très bien cette barrière de potentiel, qui est la barrière qui est optiquement induite par l'excitation. Et puis des condensats étendus de chaque côté. On voit qu'ici, il y a de la, sur les condensats qui sont à plus haute énergie, il y a de la lumière dans la barrière. Et puis au contraire, ici, on voit qu'il n'y a plus trop de lumière et que les condensats ont l'air d'être plutôt localisés d'un côté ou de l'autre de la barrière. Et donc, cette barrière optiquement créée, c'est une barrière tunnel. Alors, en fait, si on calcule dans un modèle très simple le couplage entre deux fonctions d'onde de polariton de part et d'autre d'une barrière de forme carrée et qui ici fait 2 microns, ce qu'on voit, c'est que le couplage tunnel, donc entre la droite et la gauche, est extrêmement sensible à l'énergie. Si on prend un polariton qui est situé vers le haut de la barrière et qu'on le compare avec le couplage tunnel avec des polaritons qui sont situés simplement 1 millièvre en dessous, on voit qu'on a 3 décades de différence. Donc en fait, ceci confirme bien que les polaritons qui sont ici sont couplés par effet tunnel à travers la barrière. Et puis au contraire, plus on descend en énergie, plus le couplage tunnel est faible et on a vraiment des états qui sont situés soit d'un côté, soit de l'autre. Alors ce qu'on a voulu faire, c'est sonder la cohérence spatiale de ces états. Et donc ici, on a placé les deux trous d'Young du même côté du spot d'excitation. Et ce qu'on voit, donc, c'est que tous ces états sont effectivement cohérents spatialement. Donc on a vraiment la coexistence de plusieurs condensats qui ont des cas différents, qui sont à des énergies différentes et qui présentent une très grande cohérence spatiale. Si maintenant je mets les formes de chaque côté, ce qu'on voit, c'est que les états qui sont en haut et qui sont couplés par effet tunnel présentent une cohérence spatiale entre la droite et la gauche, alors qu'au contraire, les polaritons qui sont plus bas sont complètement découplés et il n'existe aucune cohérence spatiale entre la droite et la gauche du spot. Donc en fait, on a vraiment trouvé une façon de contrôler de façon optique le couplage tunnel entre des condensats qui sont donc séparés par une barrière tunnel. Alors maintenant, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est refaire la même chose, mais près du bord du fil. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que on commence à voir apparaître, en fait, un piège qui est compris entre le spot d'excitation et puis le mur infini qui est défini par le bout du fil. Et donc, en fait, on commence à relaxer dans les états de ce piège. Et si on image l'émission donc en fonction de la position, on voit directement les fonctions d'onde quantifiées dans ce piège. Et donc, on est en train de transférer, donc de faire relaxer des condensats dans des états qui définissent donc un piège 0D, un piège tridimensionnel. Et donc, on est en train de peupler des condensats 0D. Alors, on peut très bien définir les fonctions d'onde, donc calculer les niveaux quantifiés, les énergies et les fonctions d'onde, donc des polaritons dans ce piège. Donc, ici, c'est le bout du fil et ici, c'est le potentiel qui est lié aux excitons qu'on a introduits dans le réservoir. Alors, ces pièges, on peut les contrôler optiquement. On peut augmenter la puissance pour augmenter la barrière ici. On peut aussi déplacer simplement le spot d'excitation pour avoir un piège qui est plus ou moins grand. Alors maintenant, juste pour finir, ce que je voudrais vous raconter, c'est vous montrer qu'on a des très fortes signatures de l'interaction coulombienne donc entre ces excitons, ces condensats et les excitons, des interactions coulombiennes, soit à l'intérieur du condensat, soit avec les excitons du réservoir. Alors pour ça, en fait, je vais comparer deux façons de générer des condensats 0D. D'une part, les pièges que je viens de vous décrire, et puis d'autre part, une autre structure qui est simplement définie par un micropilier. En fait, je confine complètement mes polaritons directement en les mettant dans un pilier. Alors, dans les deux cas, on peut générer des condensats, mais ce que vous voyez, c'est que ici, les condensats sont séparés spatialement du réservoir, alors qu'ici, ils ont un très fort recouvrement spatial avec le réservoir. Donc, si je regarde mon équation de Schrödinger, ce que je vois, c'est que ici, dans le cas où j'ai vraiment mis les réservoirs à côté des condensats, je vais être très très sensible à ce terme d'interaction non linéaire. Au contraire, ici, je vais être très sensible au terme d'interaction avec le réservoir. Et donc, je vais vous montrer qu'on voit une déformation des fonctions d'onde et qu'on peut vraiment très bien décrire dans un cas et dans l'autre en utilisant l'un ou l'autre des deux termes. Alors juste les piliers, donc dans un pilier, qu'est-ce qu'on fait? On quantifie non plus seulement le KX mais également le KY, et donc on a des états complètement discrétisés de polaritons qui sont d'autant plus séparés spectralement que la taille du pilier, je me suis trompée, les 10 microns il est en haut, le 2,8 microns il est en bas, que la taille du pilier diminue. Et donc, ce qui est très intéressant dans ces piliers, c'est que on peut observer donc la condensation, le laser à polariton sur les modes discrets du micropilier, mais également en augmentant la puissance, on peut observer l'effet laser à photon. Donc, en fait, dans le même système, en augmentant la densité, on a les deux régimes. Alors, si on regarde spatialement, donc ici, on regarde un micropilier qui fait 10 microns. Et qu'on excite au centre avec un spot de 2 microns. Donc on a un petit spot dans un micropilier. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'émission, donc spatialement, se déforme au fur et à mesure qu'on augmente la puissance. Et on voit qu'en fait, les polaritons ont tendance à s'échapper du spot d'excitation, comme dans les fils. Sauf qu'ici, ils ne peuvent pas s'en aller très loin. Ils vont là le plus loin où ils peuvent. Et le plus loin où ils peuvent, c'est les quatre coins du carré. Et donc, on a vraiment une émission qui se déforme complètement et qui tend à échapper au spot d'excitation. Alors, en fait, en prenant cette équation et en introduisant les excitons, le potentiel du réservoir, donc qui sont liés à la population du réservoir, eh ben, on rend compte complètement de la déformation des fonctions d'onde. Et donc, on voit qu'on a vraiment exactement les mêmes effets qu'on prédit avec la luminescence qui s'enfuit vers les bords. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a ce potentiel répulsif qui tend à faire que les polaritons s'enfuient. Maintenant, si j'augmente la puissance, de la même façon que dans les fils, j'avais du confinement par le gain, là on a la même chose, le système se met à laser là où il y a du gain, et en plus on a du confinement par des variations d'indice, et donc on voit de la même façon un comportement opposé avec l'émission laser qui se retrouve au centre du pilier. Alors maintenant, si je fais le même genre d'étude, mais dans des pièges, donc là où on n'a plus le réservoir, l'interaction avec le réservoir est très faible parce que le réservoir il est sur le côté. Donc ce qu'on voit, c'est que si on augmente la puissance, on a aussi une condensation dans l'état fondamental du piège. On voit qu'on a une augmentation très très forte. Et si on regarde aux plus fortes puissances, on a plusieurs milliers de polaritons qui sont dans le même état et qui sont bien séparés du réservoir. Donc on va sonder le terme d'interaction à l'intérieur du condensat. Alors si on regarde par exemple ici à 10 pth, à la plus forte occupation, on voit que les fonctions d'onde dans le condensat, ce sont dans le piège, ont vraiment changé d'aspect. On voit que le niveau numéro 2, il a presque disparu. Et le niveau fondamental, en fait, il s'est mélangé avec le niveau 2 et il présente deux pics. Et donc le condensat tend à s'étendre, en fait, à prendre plus de place. Alors si on calcule des fonctions d'onde dans le piège en tenant compte de ce terme d'interaction, on décrit tout à fait cette déformation comme ça des fonctions d'onde à l'intérieur du piège. Donc de nouveau, on voit que ce condensat, il a une partie matière et qui est responsable donc des interactions coulombiennes. Je ne sais pas où j'en suis. Voilà. Donc je vais conclure. Je pense que j'espère vous avoir convaincu qu'on est capable donc de générer des condensats de polaritons avec une cohérence qui s'étend, qui est vraiment macroscopique, qu'on est capable de les manipuler optiquement, de contrôler optiquement un effet tunnel, de les piéger optiquement dans des pièges, et puis qu'on a également donc une très forte signature des interactions coulombiennes, donc qui sont vraiment liées à la nature excitonique matière donc de ces condensats. Alors, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent? Alors, la première chose, évidemment, qu'on a envie de voir, c'est si cette propagation est superfluide. Donc, on est en train actuellement d'essayer de voir si on voit une disparition de la diffusion par le désordre. Si on voit qu'il y a de la diffusion par le désordre sous le seuil, est-ce que cette diffusion est modifiée lorsqu'on passe le seuil? Ce qu'on a vu également, c'est que la cohérence spatiale, là, s'étend sur tout le fil. Donc, on n'est pas capable de mesurer le déclin de la cohérence parce que nos fils sont trop courts. Donc on va faire des fils plus longs, des fils millimétriques pour vraiment mesurer le déclin de la cohérence spatiale. Puis également, on va mesurer la cohérence temporelle de ces condensats. Alors après, il y a beaucoup de propositions théoriques qui ont été proposées récemment. qui sont basées donc sur des condensats polaritons qui se propagent. Donc par exemple d'essayer de faire un interféromètre, de faire passer donc des condensats qui se propagent dans un anneau, et on s'attend également sous champ magnétique à voir des fluctuations donc de l'intensité qui va être transmise par cet interféromètre. On peut espérer faire des portes, essayer de propager, donc utiliser le spin de nos polaritons pour essayer donc de créer une petite barrière de potentiel sur laquelle vont se réfléchir les polaritons qui ont la bonne polarisation et vont être transmis ceux qui n'ont pas la bonne polarisation. Donc on peut commencer à essayer de voir si on peut faire des portes optiques sensibles à la polarisation. Et puis également, le Graal, c'est d'essayer d'injecter électriquement ces condensats. Donc ça, on a déjà réussi à injecter électriquement des polaritons, mais dans le régime spontané. Pour l'instant, on passe en couplage faible avant de voir la condensation. Donc il y a un petit travail d'optimisation à faire, mais c'est sûr que ça sera très très important d'arriver à démontrer qu'on est capable d'injecter électriquement ces condensats. Voilà. Et donc ça, je ne résiste pas à vous montrer les beaux visages de tous les collaborateurs, tous les gens qui y participent à ces expériences. Merci beaucoup.
Je peux à nouveau pour regarder la superfluidité, il faut faire varier la vitesse évidemment de propagation. Et comment vous faites ça?
Alors en fait là on a un bouton pour faire varier la vitesse. C'est toujours le même. C'est que le cas de nos polarités, ce qu'on a vu c'est que quand on augmente la puissance, le K augmente d'abord, puis après les polaritons relaxent. Donc en fait, on peut comme ça sonder différentes valeurs de la vitesse. Voilà, donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prend le fil, on met le spot d'excitation et on masque toute cette partie-là. On regarde que les polaritons qui s'échappent du spot d'excitation. Et alors après, qu'est-ce que peut faire le désordre dans un fil? Il ne peut pas nous faire aller sur les bords parce qu'il n'y a pas d'état. Il peut faire simplement de la rétrodiffusion. Donc ce qu'on est en train de quantifier, c'est comment est affectée la rétrodiffusion par la...
Vous avez déjà une idée de ce que va être la vitesse critique et donc si elle sera dans la fenêtre...
Alors justement, on est en train de réfléchir à ça, c'est pas évident. Non, pas moi. C'est lui qui a un bouton.
Oui, je voulais essayer de me faire une idée de la taille de l'objet élémentaire qui condense, donc le polariton. Si j'ai affaire à des condensats d'atomes, je vois bien de quoi il s'agit. J'ai un atome dont la taille est définie, ou plus précisément, il y aura une longueur de diffusion atome-atome qui caractérisera cette chose-là. Pour un exciton, je vois très bien aussi ce que peut être sa taille. En revanche, le fait d'être couplé au champ, ça me perturbe. C'est-à-dire, quelle est finalement la taille que je dois imaginer élémentaire pour l'objet composite?
Alors, ce que je pense, si on regarde juste le photon, en fait, un mode de photon dans une cavité planaire, il a une certaine extension spatiale qui est liée à son ouverture angulaire, à son facteur de qualité. Donc, typiquement, dans une cavité de faible facteur de qualité, on va avoir un mode qui est assez petit. Plus on prend un mode de cavité qui a un facteur de qualité grand, qui est petit dans l'espace des cas, plus il va être grand dans l'espace réel. Donc, et puis après, ce que je pense, c'est que quand on a par exemple un polariton qui est moitié photon, moitié exciton, il a typiquement une extension spatiale qui est la moitié du mode de photon. Typiquement, c'est 2 ou 3 microns, 5 microns dans les meilleurs échantillons. Ce qu'on voit, c'est que dans un pilier de 10 microns, on commence à voir la quantification des modes. Donc ça veut dire que l'extension de la fonction d'onde du polariton dans le régime spontané est de l'ordre de un peu moins que 10 microns et on commence à sentir les bords quand on est confiné de 10 microns. Si on prend un pilier de 5 microns, là on voit très bien que les polaritons sont vraiment discrétisés, donc ça veut dire que la fonction d'onde, elle sent vraiment les bords. Voilà. Donc l'objet, il fait entre 5 et 10 microns chez nous.
Donc, en bref, c'est quand même un objet qui est assez conséquemment étendu.
Grâce à sa partie photonique.
Oui, d'accord. Voilà. Et c'est ça qui condense. Ok, merci. Oui.
Une des grandes tendances dans le domaine des atomes froids, c'est de quitter le régime de champ moyen, bien décrit par Gross-Pitayevski, pour aller vers des régimes qui sont fortement corrélés, enfin au moins corrélés et si possible fortement corrélés. C'est le cas avec la transition avec l'isolant de Mott, superfluide isolant de Mott. C'est aussi le cas pour les systèmes unidimensionnels où on essaie d'aller vers des régimes de Tonks. De Tonks. C'est-à-dire où les atomes s'ordonnent un peu comme des perles dans un collier, quoi, au lieu d'être lieu d'être décrit par une fonction de macroscopique. Est-ce qu'il y a un espoir de quitter le régime champ moyen avec les polaritons?
Alors comment il faudrait augmenter
Ça dépend beaucoup de la situation. À 1D, il faut au contraire diminuer la densité. À 3D, il faut l'augmenter. Donc il n'y a pas un critère simple.
Et la signature, comment on peut imaginer voir ça expérimentalement?
La signature, c'est qu'on perd par exemple des belles franges d'interférence tout en restant à très basse température. C'est-à-dire que c'est pas la... Le système n'est plus décrit par une seule fonction d'onde. Il y a des corrélations entre particules. Je vois que Roland a envie de répondre.
Ça peut m'aider.
C'est pas une question triviale, me semble-t-il.
Non, je suis pas capable de répondre.
Mais c'est toi qui dois. Ça montait en densité, mais si tu veux, ce que tu as dans la tête, effectivement, pour les systèmes indés, je me demande dans quelle mesure c'est pas un tout petit peu relié quand même au type d'interaction qu'elle tu as fait. Parce que là, les interactions sont probablement assez différentes. Ouais.
Je ne sais pas. Je me prendrai à mes théories, ça.
J'ai une question. Vos excitants, les polaritons, ils sont constamment en présence d'une surface. On sait que des surfaces sont des objets, a priori, qui apportent des problèmes. Or, là, ça ne semble pas être le cas.
Alors, ça, c'est vraiment grâce à Isabelle Sagne qui a développé des gravures absolument incroyables. Il semble que dans le bâti qu'on utilise pour la gravure se produit une passivation des flancs qui fait qu'effectivement, dans nos échantillons, même quand on étudie des fils qui font 2 microns, on arrive à les voir se propager sur 100 microns sans problème. Donc ça, il y a visiblement une barrière de potentiel qui se crée qui empêche les porteurs d'aller explorer les flancs. Et ça, c'est vraiment une grande chance qu'on a. Il y a beaucoup d'autres laboratoires qui disent que quand ils gravent un pilier avec un puits quantique, il n'y a pas de signal de luminescence qui sort parce que les excitons se recombinent non radiativement sur les flancs. Donc c'est vraiment une alchimie secrète qui fait qu'on a cette grande chance d'avoir ces échantillons.
S'il n'y a plus de questions, on remercie encore.